Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchi comme librairie. Plus nous serons nombreux et nombreuses à lire ces lignes, plus nous serons à faire vivre le souvenir de ces femmes. Les absentes feront aussi partie de vos vies. Pour ce nouvel épisode de l'affranchi podcast, nous recevons Lorraine Descartes à l'occasion de la parution de son ouvrage « Nos absentes à l'origine des féminicides » aux éditions du Seuil. C'est parti. Bonsoir Lorraine.
Bonsoir Soazic.
J'imagine en fait que comme moi, on est quand même assez nombreux, nombreuses à être quand même bousculées par ce que tu as écrit. Est-ce que tu ressens ça, en fait, que ça a été un livre un peu dur à lire quand même pour tout le monde ?
Je sais pas trop comment répondre à cette question parce que... comme en fait c'est ce sur quoi je travaille depuis des années, enfin en fait pour moi j'ai un peu l'habitude, après, et puis que c'est un peu la première fois que je publie un livre vraiment à moi, donc je sais pas, je peux pas trop comparer. Oui, on me dit que c'est difficile à lire, mais bon, en même temps je m'y attendais, donc après on me dit aussi qu'on a l'impression parfois que ça va être très théorique ou très aride, alors qu'au final, c'est assez fluide et... Enfin, il y a un récit quand même. Je sais pas trop. Je sais que c'est un livre qui émeut beaucoup, ça c'est sûr.
J'ai l'impression, en fait, que ce qui se passe dans tes lignes, ce qui se passe dans ce livre, c'est que vraiment, tu montres ce que c'est que de réellement parler avec respect, en fait, et dignité les féminicides. C'est-à-dire que ce n'est plus tout le cirque, en fait, des médias à essayer d'utiliser des métaphores, des images, la romantisation. Là, t'es dans une justesse de raconter les faits, de raconter les personnes, de raconter le déroulement de plusieurs histoires. Enfin, on a vraiment, en fait, quelque chose où tu as pris soin, en fait, des histoires que tu nous racontes. Ce qui est extrêmement rare dans l'espace public, dans les médias, dans, que ce soit en journal, papier, ou que ce soit à la télé, ou etc. Enfin, on est rarement face à ce type-là de façon de raconter les féminicides.
Oui, c'est vrai. Pour le soin où je me suis mis une immense pression pour écrire ce livre, je pense que c'est pour ça que ça a été hyper difficile à écrire pour moi, parce que à la fois je voulais créer un récit qui soit intéressant à lire, enfin dans la lignée de la non-fiction narrative, et en même temps bah c'est un livre que j'écris pour moi mais aussi pour les absentes, et j'avais le devoir et la responsabilité d'être la plus juste possible et la plus respectueuse. Je pensais aussi au deuil des familles qui m'ont fait confiance, qui m'ont confié leur histoire et pour qui ça continue. J'avais extrêmement peur, mais c'est aussi une peur que j'ai en tant que journaliste d'utiliser le mauvais mot ou d'utiliser, parfois c'est par erreur, ça peut arriver, un mot qui est pas très grave factuellement mais qu'on aurait pu éviter et tout le monde aurait été content à la fin, ce genre de choses. Donc c'est aussi pour ça que j'ai fait relire les textes par les personnes, enfin les familles de victimes et les survivantes. Et puis aussi, j'étais animée par un vrai désir de comprendre. Et en fait, c'est vrai qu'au bout d'un moment, comme je suis tellement, où j'ai été tellement dedans, que parfois les personnes s'arrêtent sur des choses qui me paraissent évidentes. Et c'est vrai que je redécouvre un peu le livre avec les retours des personnes.
Parce que là, en fait, on parle d'un travail qui a duré 6 ans.
Non, un peu plus, hein. Franchement, ça fait longtemps. Hein. En France, j'ai commencé à travailler, c'était avec l'affaire de Géraldine Soyer. Après, en tant que reporter, c'est que j'ai commencé à travailler dessus aussi à l'étranger. Mm-hmm. Et le retour en France s'est fait en 2016. Et dans le livre, c'est ce que je raconte à travers le meurtre de Géraldine Soyer qui a été tuée dans la montagne de Reims. Et c'était un meurtre assez... symptomatique de ce qui se passe. C'était dans un contexte de séparation, comme souvent. Il y avait eu un passage à la gendarmerie pour des signalements. Il s'était rien passé. Les petites de Géraldine Soyez avaient signalé la présence d'armes à feu à domicile. Elles n'avaient pas été retirées. En faisant l'enquête, je m'étais rendu compte que le meurtrier avait déjà un casier judiciaire pour des violences faites sur des femmes, notamment dans un contexte conjugal sur une ex-compagne. Rien n'avait été fait et c'est assez, voilà, c'est un petit peu, il y a d'autres cas de figure qui arrivent, mais le contexte de séparation, présence d'armes à feu, signalement au préalable, c'est quand même assez, normalement ça devrait alerter les forces de l'ordre.
Et ce qu'on va découvrir au fur et à mesure de ton livre, c'est qu'en fait, tu vas tenir un document Excel. Ça doit être un travail très particulier, mais comme tu le disais, c'est ton travail, en fait, aussi. C'est-à-dire que de mettre en place des outils comme ça, j'imagine que ça aide aussi à avoir un rituel dans la façon, en fait, de garder les informations, d'être systématique, etc. Est-ce que la façon dont tu as travaillé pour ce livre, déjà, est-ce que c'était à la base, dès 2016, l'idée était d'écrire un livre, ou c'était d'être dans ton enquête et tu ne savais pas vraiment quelle forme tout ça allait prendre, ou tu avais déjà vraiment quelque chose de très strict pour accompagner l'écriture de ce livre dans ta méthodologie?
Le tableur Excel, en fait, c'était en 2018. Parce que j'avais donc fait ma première enquête sur les féminicides conjugaux en France avec notamment l'histoire de Géraldine Souhey que je raconte dans le livre, mais j'avais aussi raconté étant en contact avec d'autres familles de victimes. Et en fait, je savais qu'il y avait encore des choses à raconter et l'histoire, elle continuait de m'habiter. En fait, je pense que l'histoire de Géraldine Souhey est dans le livre aussi. Donc, on ouvre le livre avec le meurtre de Géraldine Souhey et donc moi, la jeune journaliste à l'époque qui enquête, etc. Enfin, et ça amène aussi, je pense, énormément de connaissances sur ce qu'est le féminicide, qui est malheureusement pas connu en France parce qu'il y a une méconnaissance assez générale et c'est souvent assimilé à un mot valise médiatique alors que ça renvoie à une longue tradition de recherche. Notamment, c'est ramené à la notion de crime genré, c'est un crime dont le mobile est misogyne. Et en fait, je savais, c'est un petit peu ce que je raconte donc à travers l'histoire de Géraldine Souhey, mais je savais qu'il restait beaucoup de choses à raconter et j'étais un peu sur ma faim, ou en tout cas, mon obsession est restée en moi. Et en 2018, j'avais gagné une bourse avec la SCAM, qui est un organisme qui alloue des bourses pour les auteurs et les journalistes aussi. Et ça m'avait permis d'avoir les finances pour me plonger, en tout cas amorcer cette enquête. Et j'avais procédé, à l'époque, il y avait le recensement féminicide par compagnon ou ex. Et en fait, je m'étais dit, je vais prendre chaque affaire au cas par cas et je vais les enregistrer dans mon tableur Excel. En fait, j'avais vu cette méthodologie en Turquie où j'avais enquêté sur un mouvement de lutte contre les féminicides. Et j'avais été inspirée par la méthodologie et donc je l'ai reprise. Ça m'avait pris énormément de temps. Et en fait, je lisais tout ce qui avait été fait à partir de ce recensement féminicide par compagnon ou ex. Et ensuite, j'avais lu parfois des trentaines d'articles, les registres aussi de décès, maintenant ils sont publiés en ligne, j'ai appelé les mairies, j'étais aussi en contact avec beaucoup de familles qui m'aidaient aussi à compléter le recensement. Il y a aussi une trace numérique assez forte des personnes. Et ensuite, à partir de là, j'avais pu avoir une vue d'ensemble de ce qui se faisait, et notamment la fréquence de plaintes et d'antécédents de violence. Et ensuite, en rencontrant les familles un peu partout en France, c'est quelque chose aussi sur lequel je reviens et qui est raconté dans le livre. J'avais pu... En fait, j'avais une masse d'informations quand même assez colossale. Donc, quand on est dans une enquête, on collecte des informations, etc. Mais on n'a pas forcément la vue d'ensemble dès le départ. Et ensuite, en allant rencontrer les familles, souvent, ils me sortaient les classeurs avec les dossiers juridiques. Et en fait, au bout d'un moment, je me disais, bon, bah, en fait, c'est ça mon sujet, c'est ça qu'il faut que tu racontes. Parce que je cherchais l'angle ou l'axe, enfin, c'était très divers, en fait. Donc, il faut raconter une histoire, il faut, comme c'était une enquête, il fallait montrer des choses. Et en fait, au bout d'un moment, ça m'est apparu comme une évidence que c'était sur ça. Et en fait, ça fait écho à une autre définition du féminicide ou une deuxième manière de le caractériser qui a été développée par une chercheuse mexicaine qui s'appelle Marcela Lagarde, qui est aussi une femme parlementaire qui a contribué au vote d'une loi anti-féminicide au Mexique assez importante et qui explique qu'en fait, le féminicide, c'est pas seulement un crime de genre, mais c'est aussi, elle dit, Marcela Lagarde, un crime d'État, dans le sens où en fait, ça renvoie à l'impunité qu'il y a autour de ces meurtres et au climat de banalisation dans lequel ils s'insèrent. C'est la parole des victimes qui n'est pas écoutée quand elles vont dénoncer des violences, ou ne serait-ce en fait que de dire « j'ai peur » aux autorités. C'est aussi donc les plaintes qui ne sont pas traitées ou pas assez suivies des faits, notamment quand il y a des injonctions de soins. C'est tout ça. C'est le climat aussi de banalisation des violences sexistes où tout va être minimisé aussi.
Tu vas vraiment nous faire voyager entre les histoires des absentes. Tu vas vraiment prendre le temps de nous raconter ces femmes, nous raconter qui elles étaient, comment les familles parlent d'elles. Et puis, tu vas aussi revenir sur des procès. Enfin, on sent en fait que t'essayes d'avoir le maximum d'informations, mais il y a énormément de choses qu'on ne comprend pas, en fait. Où on se dit, comment on en est encore là? Voilà, c'est vraiment ça. C'est comment on en est encore là, alors que tout ce que t'écris est tellement clair sur les problèmes de société que ça amène, en fait. Enfin, je veux dire, il y a une colère quand même assez forte à la fin de ton livre de se dire, c'est indéniable, en fait. Il y a un énorme problème de société. Et donc, bon, bah, petit à petit, on se dit que c'est peut-être pas fait...
C'est parce que c'est horrible, en fait, de regarder à quel point c'est prégnant, à quel point c'est diffus. C'est tellement horrible, en fait, que c'est plus facile de fermer les yeux. C'est dramatique. Et en fait, on ferme les yeux jusqu'à ce qu'on est impacté, jusqu'à ce qu'on est concerné. Et là, on ne peut plus les refermer. Et le problème, en fait, c'est qu'on est souvent seul. Les histoires qui sont dans le livre, en fait, c'est beaucoup de solitude.
Oui, ça a dû être... des contacts assez, évidemment, extrêmement forts à chaque fois. On voit notamment les jeunes filles au début, que tu vois plusieurs années après.
Oui, parce qu'elles étaient mineures et donc je ne les ai pas interviewées parce qu'elles avaient perdu leur mère, donc ce n'était pas possible. Après, la fille de Géraldine Sawyer, je l'ai retrouvée au moment du livre. Elle m'a raconté aussi ce qu'elle devenait. Ça m'a fait hyper plaisir. Mmh. Elle devient étudiante en droit. Et ouais, elle était hyper forte. Franchement, ça force l'admiration. Et oui, bah, en fait, il y a un journaliste, Adrien Jolme, qui est un journaliste reporter de guerre. Il avait une phrase, pour le Figaro d'ailleurs, il avait fait une expo sur le métier de reporter de guerre à Bayeux. Il disait que les terrains de conflit, c'était des révélateurs d'humanité, mais en fait, tous les terrains de crise... Et ces situations de crime en France, c'est aussi le cas. Et c'est sûr que dans ce livre, il y a énormément de personnes qui forcent l'admiration parce qu'elles sont encore là, parce qu'elles ont survécu, parce qu'elles affrontent aussi les conséquences de ces meurtres, notamment. Et en fait, c'est aussi là où je pense que c'est intéressant de l'avoir adapté en livre parce qu'il y a le temps du fait divers, entre guillemets, qui aussi morcelle la réalité. C'est pas un problème, le fait divers. Le problème, c'est quand il y a un phénomène de société et politique qui est uniquement confiné aux pages faits divers. Et en fait, c'est un genre qui morcelle en fait les affaires et qui empêche de voir le côté systémique. C'est aussi pour ça que ce tableur Excel listait en fait tous les faits divers et que moi, ça m'a aidé. C'était pas visible dans l'enquête. L'enquête que j'avais fait pour la presse, c'était pour Mediapart, c'était pas visible et j'ai pas raconté l'histoire du tableur. Là, je l'ai raconté dans le livre parce qu'il y a ce côté narration, etc. Mais oui, il y a ça. Et pour les familles, en fait, c'est des conséquences multiples qui durent des années et des années. C'est notamment l'imbroglio administratif, financier aussi, de l'après-meurtre. Financier où déjà, ça coûte très cher de faire enterrer quelqu'un, de payer les funérailles. Tout le monde n'a pas forcément les moyens immédiatement. Comme les maisons, c'est souvent dans des domiciles, les maisons, elles sont sous-scellées, donc il faut payer... Il faut payer parfois les garde-robes pour les enfants, racheter des bouquins. Enfin, c'est des petits. Ça peut paraître petit, mais en fait, cumuler, c'est des sommes gigantesques. Parfois les meubles aussi. En fait, c'est ça, ce à quoi ils sont confrontés dans les médias. Et c'est aussi les frais de justice, se préparer au procès, aux assises, trouver un bon avocat. Ça coûte aussi très cher de se défendre. La question de la garde aussi pour les enfants. Parfois, ça prend des années. Dans le livre, il y a une histoire. C'est le père de Laetitia Schmidt. La dernière fois que je l'ai eu au téléphone, il était encore en discussion avec le juge aux affaires familiales pour régler l'affaire du droit de garde pour les enfants. Et ça fait 5 ans qu'elle est décédée, sa fille. Donc, la lenteur de la justice, ils la subissent aussi des années après.
Tu nous fais rencontrer ces familles, à différents endroits du livre. Enfin, on a cette fameuse évolution des années qui passent, procès qui arrivent, etc. Je me souviens bien de cette phrase. Est-ce qu'on aurait dû dire quelque chose? Est-ce qu'on aurait dû intervenir? Et je pense que là, il y a vraiment quelque chose aussi de très impressionnant de l'écrire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tout cet entourage proche qui parfois ne savait pas du tout n'a pu ne rien voir, parce que l'intime, le privé, la maison, il y a quelque chose vraiment, et c'est tout le problème, en fait, de la non-reconnaissance ou la reconnaissance extrêmement tardive des féminicides, c'était que c'était vraiment quelque chose qui ne concernait que les familles, et ça ne concernait personne d'autre. Mais il y a cette phrase qui dit, si on était intervenu, si on lui avait dit qu'il n'était pas correct, si on lui avait dit qu'il fallait qu'elle méritait mieux, etc., peut-être que ça aurait changé. Ça doit être... c'est quelque chose qu'on t'a dit souvent, d'une impression que les choses auraient pu se passer différemment.
Ça, c'est le témoignage de Corinne, l'amie d'enfance de Géraldine Soyer. Mmh. Et être dans le deuil aussi, c'est rester seule avec ses questions. Moi, je pense que ça ne change pas grand-chose. Et puis que quand on accompagne une personne qui est dans une relation comme ça, lui dire partir... Enfin, en fait, c'est délicat parce que ça peut aussi faire que le lien, il est rompu et que... En fait, il n'y a pas de solution miracle. Hein. Mais c'est sûr que oui, bah, on se pose les questions, mais c'est fait. Fin...
Puisqu'en effet... tu prends le temps de parler en fait de l'avant, de ces menaces de mort, évidemment s'il y a eu des actes de violence, des plaintes, des endroits où ça commence en fait. Je me dis plus on va lire ça, plus les signaux vont être connus. Peut-être qu'il y aura quelque chose de plus de courage, en fait, d'intervenir ou de mettre en place des systèmes, parce que tu parles de la Solfa, par exemple, enfin d'associations.
Oui, ici, dans le nord de la France.
Qui sont des endroits d'écoute, d'accueil, d'urgence. Un livre pareil, dans toute cette réalité, cette vérité, ça peut aussi mettre, en fait, en tête des petites alarmes, en fait, se dire, ah, là, peut-être qu'il faut laisser traîner un fly, un numéro, j'en sais rien. Et évidemment, la personne est totalement libre et doit pouvoir décider ou pas de l'utiliser. Mais en tout cas, peut-être qu'en reconnaissant, tu vois, en lisant tes histoires, il y a peut-être ce côté-là aussi qui peut...
En fait, on a une sorte d'image d'épinal de ce qu'est la violence conjugale ou les violences intrafamiliales. Enfin, on peut utiliser plein de termes pour décrire le mécanisme de contrôle qui s'instaure par un conjoint contre un autre. En tout cas, il y a une sorte d'image d'épinal où on va beaucoup réduire le discours sur les violences conjugales ou les violences intrafamiliales, les violences masculines, enfin voilà, à de la violence physique. Et ça se retrouve aussi dans le slogan de prévention « Une femme est tuée tous les trois jours sous les coups de son ex ou compagnon ». Je précise d'ailleurs que plus j'ai avancé dans ce livre, plus j'étais confrontée au retard en France. En fait, c'est qu'il y a aussi cette méconnaissance parce que la prise de conscience et la politisation, elle est assez tardive en France. Et aussi, par exemple, pour les meurtres conjugaux, ça fait que depuis 2006 que le gouvernement les publie sur le rapport annuel des morts violentes au sein du couple. Ça veut dire qu'avant 2006, on ne pouvait même pas savoir qu'il y avait environ un meurtre conjugal de femme par un homme tous les trois jours en moyenne. Et oui, donc, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une forte méconnaissance sur la mécanique du contrôle conjugal des violences entre conjoints en France, et que ça accentue le danger puisque on va pas savoir les repérer à temps. Il y a des victimes de fémicides conjugaux qui ont jamais été a priori victimes de violences physiques. Et donc dans ce livre aussi, l'idée c'était de partager aussi les connaissances que j'avais, mais sans rendre le truc... Enfin, je suis journaliste et autrice et je voulais que ça soit... que ça se lise aussi comme un récit, mais... Donc j'ai fait aussi tout ce travail et par exemple, j'évoque les travaux de Ivan Starr, qui est un chercheur états-unien, qui je pense a une image qui est assez parlante quand il parle de lui, il parle de contrôle coercitif, il donne l'image de la cage dans laquelle la victime, très souvent une femme, est enfermée, parfois en quelques mois, parfois en quelques années, et les barreaux de la cage, c'est... plein de formes de contrôle, de violence, ça peut être de la violence physique, mais et que la multitude, c'est ça qui fait que ça enferme. Mais ça peut être aussi, par exemple, des stratégies de micro-régulation du quotidien, par exemple le contrôle vestimentaire, le contrôle alimentaire. Il y avait des témoignages dans le livre de dames qui me racontent qu'elles avaient un questionnaire ménager très précis, et si jamais c'était pas fait de la façon dont le questionnaire, la liste, il le souhaitait, ou que tout n'était pas coché quand il rentrait, il fallait tout recommencer, ou alors c'était des pressions psychologiques. Les insultes aussi. Je suis allergique aux insultes, c'est hyper banalisé, je trouve. Même le téconne. Contrôler aussi, regarder dans le téléphone de son conjoint. Enfin, en fait, tout ça, c'est pas normal, en fait, mais je pense que c'est assez banalisé. Qu'est-ce que je pourrais donner d'autre comme exemple parlant? Dans le livre, oui, le dénigrement aussi de l'entourage amical, l'isolement aussi, ça, c'est très fréquent, isoler la victime parfois de la cellule familiale, des amis, etc.
J'avais noté faire passer la victime pour folle.
Ça, c'est insupportable. Ça, c'est le témoignage de Elisabeth. Donc ça, c'est un chapitre justement qui analyse un petit peu ce que sont, qui questionne, enfin, une réflexion sur les violences conjugales, mais qui est axée avec des témoignages que j'avais eus dans les quartiers de l'Ouest parisien, qui est une poche de richesse à l'Ouest de Paris, et avec des témoignages de femmes, de survivantes issues de la haute bourgeoisie. Et Elisabeth, elle venait d'une famille aristocratique fortunée, et elle me disait qu'elle était en couple avec, qu'elle a été mariée pendant très longtemps avec un haut dirigeant. Il cachait des objets, par exemple la machine à raclette, un tube de maquillage, enfin vraiment des objets anodins. Et en fait, parfois, elle perdait des heures, elle épuisait des heures ou parfois des jours à chercher les objets. Et il lui disait « Mais non, mais ça n'a jamais existé. » Ou alors, il lui disait « Mais non, c'est la femme de ménage, il disait, par exemple. » Et en fait, elle a eu un... C'est quelqu'un qui a été poussé au suicide. Elle a fait une tentative de suicide une fois. Et d'ailleurs, je le précise, il y a donc quelques histoires qui font écho au suicide forcé. Et maintenant, il y a eu le recensement de l'Interorga des féminicides, et ce que je trouve hyper intéressant, donc pour inclure les meurtres conjugaux et d'autres formes de féminicides. Et ces personnes-là ont aussi pour ambition de collecter les cas de suicide forcé. Et donc, Elisabeth, elle a eu un déclic. Et a dit, je souhaite à tout le monde d'avoir un déclic similaire, il va arriver. Où en fait, elle a ouvert ses tiroirs. Et en fait, elle a vu sa collection de gants en cuir qui étaient tous cisaillés. Et là, elle s'est dit « Non, mais c'est pas possible. » Et c'est le moment où un point de non-retour, et elle y est plus retournée. Parce qu'en fait, très souvent, ces relations, elles sont marquées par des allers-retours. Où la victime part et puis elle revient. Parce que en fait, il y a une sorte de anesthésie. Où en fait, plus une victime va banaliser ce qu'elle va subir, plus il y a des raisons de s'inquiéter. Parce qu'en fait, elle a appris à encaisser et elle s'anesthésie presque. Et parfois, en fait, c'est pour ça que les personnes qui ont été confrontées à des situations très violentes, ou alors qui couvrent des situations très violentes, elles vont raconter des choses assez dures, mais comme si, voilà, parce qu'il y a cette anesthésie qui se met en place. Et en fait, quand elle part de la relation, ça s'est raconté avec l'histoire de Laetitia Schmidt qui a été tuée près de Strasbourg, où en fait, quand elle part, bah, l'anesthésie, c'est comme si elle disparaissait. Et du coup, l'après, et parfois, je dis pas que c'est une généralité, hein, je dis ça sur certains témoignages, mais l'après est encore pire, parce qu'en fait, tous les souvenirs reviennent, et les sensations aussi. Et c'est hyper dur, et du coup, on peut avoir l'impression que, en fait, le conjoint agresseur avait raison, parce qu'il dit « t'es rien », enfin souvent ils disent « t'es rien sans moi », ou « tu survivras pas », comme disait le meurtrier de Seloua avec son ex-compagne Magali, qui est dans le livre, il lui disait « c'est moi qui t'ai sorti de la rue, machin truc », enfin, tout. Hein. Et elles peuvent croire qu'il a raison, puisqu'elles vont beaucoup plus mal, mais en fait, c'est un moment qui est très dur, et il faut tenir bon, et je le dis, parce que il faut se faire accompagner aussi par son entourage, si on peut... avec un professionnel de santé qui est formé, etc. Mais oui, c'est dur l'après, et je pense que c'est quelque chose qui est dur.
Et ce qui est d'autant plus horrible et violent, c'est que souvent on fait passer ça sous ce fameux langage d'un amour passionnel, la fameuse romantisation. L'amour hétérosexuel est plein d'images comme ça très problématiques. Tout ça a été banalisé. Enfin, quand on y pense et qu'on prend le temps de faire ce pas de recul et de se dire mais d'où c'est ok d'avoir ce contrôle, cette pression, cette jalousie, cette non-confiance.
Je dis pas que c'est le cas de tous les hommes, mais c'est sûr qu'il y a une norme qui est extrêmement puissante et c'est un écueil, à mon avis... beaucoup trop fréquent dans les couples et notamment les couples hétérosexuels. C'est quelque chose que je raconte dans le livre, dans des parties, enfin que je raconte plus avec le travail d'écriture de soi, où je raconte, comment je cette éducation un peu à l'hétérosexualité. Bon, je l'ai quand j'étais au lycée, je me rappelle de ces couples. Voilà, c'est les premières expériences amoureuses et de ce sentiment. Y a quelque chose d'hyper caricatural qui se reproduisait dès ses premières expériences amoureuses au lycée avec mes amis qui avaient plus le droit de sortir en boîte de nuit par exemple. Enfin, j'ai grandi à côté de la mer, il y avait des boîtes de nuit, du coup on y allait et que c'était aussi un marqueur d'être femme que de sentir appartenir à quelqu'un, et c'était très caricatural. Et ça se ressentait déjà, et je pense que ça se ressent encore aujourd'hui. J'ai déjà fait un atelier d'écriture dans un lycée. C'était une expérience géniale où on avait créé un fanzine autour de l'amour et de l'intime avec des lycéens en lycée pro. J'en avais fait un récit pour Libération ensuite. Et en fait, quand je démarrais l'atelier, je demandais aux classes, et il y avait une classe de routiers. Mais ils étaient trop géniaux, hein, tous les ados et tout, qui étaient plutôt une classe de jeunes garçons et une classe de bac pro esthétique. Et donc là, c'était que des filles, à part je crois qu'il y avait un garçon qui était dans la classe, je crois. Et en fait, au tableau, j'écrivais, je leur disais à quoi ça te fait penser l'amour, etc. Et du coup, ils écrivaient sur la lettre, sur la feuille, tout ce qui leur venait en tête, un peu sur le mode de l'écriture automatique. Et les garçons, c'était des trucs très chevaleresques ou très clichés, par exemple, Maldives, mariage, ce genre de choses. Et les filles, c'était quasiment pour moitié, en fait, des notions négatives de jalousie, de violence. Et ça sortait, en fait, déjà à 16-17 ans, quand elles étaient au lycée, ce genre de choses.
Oui, il y a y a quand même quelque chose... de nos imaginaires amoureux
qu'il faut déconstruire,
qu'il faut absolument déconstruire et repenser. Enfin, c'est
oui. Après, ça a été déjà beaucoup documenté par beaucoup d'autrices, ma consoeur Judith Duportail, il y a Victoire Tuaillon, etc. Et puis il y a aussi ma consoeur Coco Spina qui va bientôt sortir un livre avec les filles de Sensord que j'ai hyper hâte de lire et qui a fait un super essai qui est publié sur Manifesto 21 sur l'amour romantique. Mais en tout cas, oui, après, en fait, c'est plutôt quelque chose qui est diffus dans le livre, cette réflexion.
C'est important aussi de montrer qu'il y a et l'urgence de la situation immédiate. Il faut trouver des solutions. Il faut que les hommes cessent de tuer les femmes. Enfin, au bout d'un moment, en fait, c'est pas plus simple que ça.
Ouais, et de les insulter aussi et de les frapper. Hein.
Que tout ce continuum de violence, en fait, cesse. Et de se dire qu'en fait, il y a des choses en amont. Enfin, là, tu parles d'adolescence. Les façons dont on se lie les uns les unes aux autres, les façons dont on se parle, les façons dont on ne se respecte pas. C'est intéressant aussi de se dire qu'on a des choses à travailler de manière sociétale sur nos comportements les uns et les unes avec les autres. En fait.
Ouais, c'est hyper intéressant. Merci de souligner ça. En fait, en écrivant ce livre, normalement, je suis journaliste et je fais surtout du reportage. Donc voilà, je vais sur le terrain. Je m'immisce dans la vie des gens pour la raconter avec leur consentement. Et du coup, souvent, je m'oublie, en fait. Enfin, je pense pas trop à moi et tout, mais c'est normal, en fait. C'est pour ça que j'adore le... Enfin, c'est un peu le principe du reportage et tout. Et en fait, d'écrire le livre, j'ai dû me poser pendant assez longtemps. Et aussi, il y a tout ce travail d'écriture de soi qui a pas été facile. C'est pas la même écriture. Et ça m'a aussi beaucoup amené à réfléchir, à faire ce travail d'introspection. Et aussi de questionner le rapport à la domination. en fait, au-delà de la question du genre, on a tous à réfléchir là-dessus. Et je suis pas parfaite, mais je sais que à la fin de ce livre, je crois que je suis devenue encore plus allergique à ça et aussi au mépris social qui est diffus.
Donc là, tu parles de tous ces passages où tu parles de toi, en fait, de ton expérience, de ta famille. Et je me souviens, je crois que c'est ta mère à un moment donné qui t'interpelle. Et donc, elle a cette question-là, elle te demande, en fait, mais comment tu fais avec cette violence ? Comment tu arrives à la transcender comme ça ? Et j'ai trouvé ça super beau. Et donc, comment fais-tu ? Est-ce que tu y arrives ? C'est quand même une énorme partie de ta vie là qui est dans ce livre.
C'est une question qui est légitime. Après, je sais pas si on me la pose. Je me pose la question, mais on peut y réfléchir. Et c'est pas du tout accusateur et tout, parce que je trouve qu'elle est pertinente. Mais je me demande si c'est une question qu'on pose aux personnes qui travaillent sur d'autres sujets que les violences intimes. Est-ce qu'on la pose à quelqu'un ? Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, comment je fais déjà, j'ai une vie personnelle stable, affective et émotionnelle. Je pense que je pourrais pas faire sans. Et j'ai une vie privée assez chouette et tout. Enfin, je suis assez heureuse dans la vie. Et par ailleurs, j'ai le privilège d'écrire. Donc, c'est-à-dire que en tant que journaliste, je travaille et j'ai des méthodologies, etc. Enfin, en fait, j'adore faire des enquêtes, du reportage. Enfin, voilà. Et aussi, je peux être confrontée à des situations dures, mais je sais que mon rôle, c'est de les raconter. J'ai pas le pouvoir, en fait, de changer les choses. Peut-être qu'on a un petit peu cet idéal romantique quand on démarre et tout, mais faut faire acte de modestie, en fait. Moi, mon travail, c'est de comprendre, d'aller sur le terrain quand c'est du reportage, et de le raconter, et si possible, de bien le raconter pour que ça soit agréable à lire. Et pour le livre, c'est pareil, en fait. Après, le reste, ça m'appartient pas, comme ce livre, maintenant, ça m'appartient plus, hein.
Après, je me souviens, tu parles d'une personne, c'est Zora, la grande
sœur de Célua, qui est super.
Tu parles d'elle comme d'une révolution de douceur. Et j'avoue que c'est typiquement une personne, dans la façon dont tu la racontes, hein, qui a une autre façon, en fait, de voir, alors qu'elle est extrêmement impliquée. Enfin, c'est sa sœur.
Elle a perdu sa sœur.
C'est ça, c'est d'une violence.
Et puis, violence, franchement, c'était atroce, hein, comme... Le procès. Il a tué à main nue. C'était un multirécidiviste des violences conjugales. Là, clairement, on dit c'est un homme violent. Enfin, il est structurellement violent, ce meurtrier. Il y a le témoignage glaçant de Magali avant, qui est une survivante de féminicide. Clairement, là, c'est une affaire où la justice a failli, sortait de prison. Magali, donc l'ex-compagne, elle va au commissariat pour dire « je viens encore de recevoir des menaces de mort ». Elle a la preuve, les messages vocaux avec « t'es morte, t'es morte, t'es morte », je les ai écoutés. Elle donne ça au commissariat. Magali, elle est sous ordonnance de protection, téléphone grave danger. Donc, en fait, normalement, il n'y a aucune question. En fait, on le prend, on le replace en prison. Hein. C'est une femme qui est menacée de mort. Là, c'est une affaire de vie et de mort. Qu'est-ce qui se passe ? Absolument rien. Les policiers lui disent, on ne sait pas où il est. Il sort de prison quand même. En fait, il était où ? Il était à quelques stations de métro, dans le centre de Paris, dans le quartier de Charonne. Il s'est lié avec ses lois. Et en quelques mois, il l'a tué à main nue. Et la sœur de Célua, Zora, elle savait même pas, en fait, que sa sœur, elle s'était liée. C'était pas fort. Je sais pas si c'était une. Je pense pas que c'était une relation très sérieuse. Je pense que Célua, c'est quelqu'un qui avait le cœur sur la main. C'est cliché de le dire, mais c'est vrai. Et cet homme, Sofiane, dans le livre, le meurtrier. Il sortait de prison, il n'avait pas beaucoup de... Je pense qu'il n'avait pas de logement, mais il y a quelques incertitudes, hein, de toute façon, sur... Mais a priori, elle l'a hébergé aussi parce qu'il était dans le besoin. Lui, il parle d'histoire d'amour, ils ont une histoire intime, c'est sûr. Et le soir du meurtre, elle lui a dit « Non, non, mais tu pars, il y a tes affaires sur le palier et il n'a pas supporté. » Et qu'est-ce que c'est ça, à part une défaillance, c'est un mot qui est même faible, en fait pour cette affaire, où il avait une plainte, c'était un multirécidiviste, il avait 14 condamnations déjà sur son casier au moment du procès aux assises. Et donc, Zora, la sœur de Célua, c'est une famille magnifique. Vraiment, c'est pour ça que je dis que c'est des révélateurs d'humanité. C'est aussi des très belles rencontres et je pense qu'on s'attache, enfin, je l'espère. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit, qu'on s'attachait aux personnes, aux personnages dans le livre. Donc, je me suis dit, bon, là, j'ai un peu réussi quand même le travail d'écriture. et elle est quelqu'un de très séduisante, son frère aussi, enfin voilà, ils sont assez charismatiques, ils ont plein d'humour, enfin même au moment du procès, ils arrivaient à avec beaucoup d'élégance, c'est un truc que j'aime bien chez eux. Et oui, en fait, elle me dit, elle est pas dans la haine, mais elle aurait, si elle avait été dans la haine, je l'aurais compris aussi. Enfin, en fait, c'est pas que j'aurais compris, en fait, c'est que j'ai jamais été à la place de perdre quelqu'un dans un contexte comme ça, donc on peut pas savoir, en fait, comment on va réagir. Mm. On peut pas le savoir, en fait, tant que ça nous arrive pas. Et ouais, ouais, c'est assez beau ce qu'elle me dit, qu'elle pourrait lui en vouloir, mais que, oui. Et elle dit aussi qu'elle aussi, elle a vécu des choses difficiles hein, dans sa famille et que ça excuse... Parce que lui aussi, il a une vie difficile qui est expliquée, etc. Mais que pour autant, ils n'ont pas sombré dans la violence, eux.
Tu nous donnes beaucoup à lire aussi sur ce procès. Donc, ça nous permet quand même de visualiser un peu plus ces rares procès, malheureusement. Mais en tout cas, des choses auxquelles on n'a pas forcément accès spontanément. Oui. On peut y avoir accès, mais je veux dire, c'est pas tous les jours qu'on va aux assises écouter un procès, en fait.
Ce procès, je pense que c'était un beau procès. C'est un procès qui a rendu, dans la mesure du possible, justice à ses lois. C'est un procès qui a été réparateur aussi pour Magali, qui s'était pas portée partie civile, mais qui a été entendue. Et elle m'a dit, c'est ce que je raconte dans le livre ensuite, on était allé prendre un verre ensemble. Et elle m'a dit que ça avait été réparateur pour elle que le magistrat lui reconnaisse que ça lui a demandé du courage de venir parler, alors que son bourreau, il était à quelques mètres dans le box des accusés. Et que, voilà, que ça lui a demandé du courage et que c'était, voilà, que c'était fort qu'elle soit là pour raconter son histoire. Et je pense que là, oui, un procès a pas forcément... Et pas forcément là pour réparer les victimes, mais celui-là, il y a eu ce côté réparateur. Donc, il a été entaché ensuite quand il a... Bon, je vais pas tout spoiler, mais quand il a fait appel. Mais oui, oui. C'était un moment, je pense, qui était important dans le livre de raconter aussi quand la justice marche bien. L'avocate générale qui utilise le terme de féminicide, parce que c'est pas reconnu dans la loi, mais maintenant c'est diffusé dans le langage judiciaire, ce qui est important, parce que ça permet aussi, du coup, dans l'avocate générale, dans un procès, c'est l'avocate qui représente un peu la société et qui, du coup, dit, qui propose une condamnation qui lui paraît juste au regard du préjudice pour la société, etc. Et souvent, c'est la personne qui fait aussi un discours assez fort. Et dans son discours, oui, elle parle, elle dit qu'aucune femme devrait avoir peur. Et pour autant, elle dit, parce que ça questionne aussi la figure du monstre, parce que là, c'est clairement un homme violent, un homme qui est dangereux dans un contexte conjugal, mais il a aussi agressé des femmes dans la rue, enfin voilà. Et elle dit que c'est pour autant pas un monstre. On touche un peu le fond, là, hein, avec ce, avec ce chapitre sur le procès, et on... Et grâce notamment à Zora, on rebondit d'une belle façon.
En fait, par ce livre et par son titre, Nous absentes, il y a quelque chose du devoir de souvenir. Enfin, il y a quelque chose d'une mémoire collective. J'ai trouvé, c'était très fort cette fin, de nous donner aussi cette responsabilité-là, lecteur, lectrice, de se dire, en fait, on doit garder en nous ces histoires-là pour qu'elles restent. Dans nos souvenirs, en fait. Il y a quelque chose de très, très fort dans ce que ça a de puissant et aussi de politique, en fait, de les faire exister dans nos souvenirs, là où elles ont été complètement abandonnées, en fait, souvent par les forces policières, par un système juridique, par une société.
Et l'actualité aussi. Et voilà. Le temps de l'actualité, ouais.
Ouais. Et ça, cet endroit-là de la mémoire collective, comment tu t'es dit que tu finissais là-dessus ?
C'est un livre où il y a beaucoup de solitude et que ce livre, je ne l'ai pas écrit pour moi. En fait, je l'ai écrit pour qu'il soit lu. Et oui, le souvenir aussi, il est politique et j'aimerais bien, en fait, qu'à l'issue d'avoir lu ce livre, voilà, qu'on ait compris, etc., mais qu'on ait aussi eu l'impression de les avoir rencontrées, ces femmes, comme j'ai l'impression de les avoir rencontrées et comme elles m'ont habité pendant longtemps alors qu'elles sont déjà mortes.
Merci beaucoup, Lorraine.
Alors, heureuse ? Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Franchie Podcast en compagnie de Lorraine Descartes à l'occasion de la parution de son ouvrage « Nos absentes à l'origine des féminicides » aux éditions du Seuil. La Franchie Podcast, c'est Soazic Courbet à la réalisation, Pierre-Antoine Naline à la création sonore et Chien Fou pour l'univers graphique.
Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu existes. Avec l'Affranchi Podcast.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.